Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Allez, on y va pour un nouveau parcours de vie plein de rebondissements, plein de tests, plein de surprises. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est justement ça la vie. Allez, on y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Boutaïna Burkel, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va aller la Boutaïna? Ouais. Alors, moi honnêtement, j'ai été interpellée la première fois en regardant votre profil, en tombant par hasard sur votre profil, sur votre compte Instagram, et j'ai beaucoup aimé cette phrase, et c'est ce qui m'a captée en fait, c'est ce qui a fait que je vous ai contactée, c'est « Allégorie de la vie d'une businesswoman ». Je me suis dit, alors cette Boutaïna doit avoir plein d'histoires à raconter. C'est ça, c'est le cas ?
Ouais, j'espère. Et il se trouve que bon, j'ai grandi dans une famille où les histoires à raconter, ça fait partie de notre ADN. Donc j'en ai toujours des histoires à raconter.
Ouais.
La vie d'une businesswoman est pleine de rebondissements. Il n'y a aucun jour qui ne ressemble au précédent.
Ouais.
Et certainement pas à celui qui arrive. Et puis, c'est aussi une façon de se détacher un peu de cette difficulté à réussir, à être à la hauteur de ses ambitions, mais aussi de cette difficulté à toujours être exposé. Parce que quand on est entrepreneur, businesswoman, on est toujours confronté au regard de l'autre, du client, du fournisseur, des investisseurs, de la notoriété d'un média comme le vôtre. On est toujours un peu confronté à ce que ce rôle demande comme représentation. Et il se trouve que j'aime bien avoir un peu de recul parce que la réalité, même si c'est très important, c'est grave, il y a beaucoup d'engagement. Au final, ce n'est qu'un métier comme un autre. Donc, il vaut mieux en rire et oui. Garder ce détachement.
Alors, vous avez dit justement, moi je viens d'une famille où les histoires, c'est tous les jours. Petite parenthèse, est-ce que c'est toujours des histoires par rapport à l'entrepreneuriat ou c'est des histoires de vie dans l'absolu? Et c'est ce qui vous a, en quelque sorte, peut-être, immunisé à vivre les histoires de l'entrepreneuriat?
Je me suis souvent posé la question parce que, on va dire que mes deux parents étaient l'un des rares de la famille, on va dire, très largement. L'un des rares à être tous les deux salariés.
Ok.
Et pourtant, tous les deux, ils avaient une forme d'entrepreneuriat dans leur métier, dans leur manière d'aborder les choses. Ils ont toujours été très proactifs. Et c'est sûr que les histoires que j'entendais à la maison m'ont influencée de cette manière à toujours aller chercher les autres, les opportunités, de les raconter aussi, ces histoires. C'est sûr que, par exemple, ma maman m'a toujours raconté les histoires de mon grand-père, Lahmo, qui était à la Médina, qui avait son commerce de laine, et qui me racontait toujours ses aventures. C'était sa manière à elle de transmettre sa mémoire, mais c'est aussi pour moi ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills.
Oui.
C'est cette manière de transmettre des savoirs et des compétences comportementales qui finalement restent ensuite. Même si je suis dans la tech et en France et on va dire dans des milieux supposés très éloignés, ces histoires-là que j'ai entendues, par exemple de négociations ou bien... bien même de résilience, de toujours trouver des solutions, de débrouillardise, elles sont restées. Et puis même la capacité à se raconter, parce que on va dire que quand on a, je fais toujours la blague, qu'on est toujours entouré de cousins et de sœurs. Moi j'ai une sœur, mais on va dire de cousins, d'enfants. On cherche l'attention et on apprend aussi à avoir cette intention de la mériter d'une certaine manière. Et raconter les histoires, ça faisait partie de cette manière à chercher l'attention. Et effectivement, d'une certaine manière, l'éducation que j'ai reçue et l'écosystème dans lequel j'ai grandi a certainement influencé mon rapport à l'entrepreneuriat. Parfois, mon côté un peu, j'assume mon côté outsider, dans le sens, voilà, dans mon écosystème actuel aujourd'hui, j'assume une pensée libre et une exécution, une action libre, et de ne pas rentrer dans les codes qui sont attendus aujourd'hui, qui sont parfois un peu enfermants et qui
du
finalement
type, justement.
À les codes, bah les codes, on va dire, de toujours, par exemple, quand on est dans la tech, de toujours s'habiller en sneakers.
C'est très
important. De mélanger, par exemple, toujours de l'anglais. De faire d'être hyper préparé, de citer certains auteurs américains. De choisir des stratégies d'entreprise qui sont liées à, par exemple, des success stories comme... Ouais. Steve Jobs ou bien Mark Zuckerberg ou d'autres, comme si c'était les seuls modèles d'inspiration, alors que moi, et je fais exprès de le réclamer, je dis toujours mes rôles modèles entrepreneuriaux, ils sont autant mes grands-parents que mon grand-père paternel qui est parti de Marrakech pour aller construire sa vie à Fès, alors qu'il avait 12 ans, et qu'il a fait de l'apprentissage et qu'il a commencé à travailler, ben pour moi, c'est aussi un rôle modèle entrepreneurial.
Ouais. On n'a pas besoin d'aller aux États-Unis chercher son rôle modèle. Au contraire, ces histoires en fait, de famille sont pleines de sources d'inspiration. Alors, l'outsider aussi que vous êtes, c'est par rapport au fait d'avoir eu des parents salariés et vous êtes entrepreneur. Ça a été une décision d'emblée, ça s'est fait, c'était, enfin
naturel,
voilà, c'était
non.
clair, naturel, voilà, exact, merci.
Non, du tout, j'ai commencé en tant que salariée aussi, ma vie professionnelle, j'ai passé plus de 10 ans en tant que salariée, et puis il se trouve que par différents choix personnels, parce que on s'est expatrié aux États-Unis et que j'ai, on va dire, passé mon congé parental comme une pause professionnelle, que je me suis posé la question à ce moment-là, est-ce que je devais revenir dans mon métier initial ou si je voulais faire autre chose. Et j'ai mené une réflexion, on va dire une introspection à ce moment-là, et je me suis rendu compte que je ne voulais absolument pas revenir à ce que je faisais avant parce que
c'était
les valeurs
quoi
n'étaient pas... j'étais consultante.
D'accord.
J'étais consultante en stratégie et en organisation. Donc, on va dire un métier statutairement, socialement très confortable, très, on va dire, positif. Mais il se trouve que voilà, j'étais dans des cabinets qui opéraient toujours de manière très taylorienne. Enfin, c'est-à-dire qu'on était un chiffre parmi tant d'autres dans cette masse salariale, il n'y avait pas vraiment de sens dans la manière de le faire. On était toujours à réduire la masse salariale des entreprises, à venir faire des coupes budgétaires. Et en fait, ça ne me faisait plus rêver. Je me suis posé la question, est-ce que le jour où je suis rentrée à l'ISCAE à l'époque, à Casablanca, c'était pour faire ça, et en fait la réponse c'était pas du tout, c'était pas ce que je voulais faire, et que je me suis posé la question, alors pour tout vous raconter, est-ce que je ne rentrerai pas dans une autre boîte, et en fait par la force des choses, parce que j'avais une pause parentale, parce que je m'étais expatriée, il se trouve que je n'arrivais pas à trouver un nouvel emploi. Et donc j'ai considéré que c'était le signe qu'il me fallait à ce moment-là, parce que c'était pendant en plein Covid, que je me suis dit que c'était vraiment le signe d'aller prendre le risque par rapport à cette idée que je caressais depuis longtemps. Parce que pour la petite histoire, pareil, ça faisait des années que j'avais des carnets où je notais toutes mes idées entrepreneuriales, ouvrir une boutique, ouvrir un restaurant, un café. Enfin, j'ai eu plein d'idées comme ça. Et finalement, rien de tout ça. Et j'ai continué dans mon métier qui est de consultant. mais pour une autre vocation, pour un autre métier, dans le sens, dans un autre sens, de ne pas juste venir pour casser la masse salariale, mais pour venir pour créer autre chose, accompagner des dirigeants pour faire autre chose. Et ça, ça m'a nourrie beaucoup plus intellectuellement, mais aussi professionnellement. Parce que tout d'un coup, je n'étais plus qu'un nombre, j'étais une experte.
Oui.
Tout d'un coup, je n'étais plus, on va dire, dépassée parce que je n'étais plus qu'un nombre et que je n'étais pas formée correctement comme ce que je voulais. J'ai assumé d'aller chercher la formation que je voulais, l'expertise que je voulais. Ça a changé complètement la donne.
Alors, vous avez dit une chose très importante. Vous avez dit, j'avais mon carnet, je notais justement ces différents rêves que j'avais. Oui. Et vous avez dit ouvrir une boutique, un resto et tout ça.
Oui.
Mais je pense que si on peut passer un message par rapport à ça, c'est que c'est important de ne pas dénigrer en fait tous ces rêves. Parce que finalement, certains, on les met de côté. Mais c'est en écrivant, en rêvant petit à petit, en éliminant, qu'on arrive finalement à trouver son vrai... Sa vraie mission de vie, son véritable ikigai, comme on dit.
Oui, tout à fait. Moi, c'est l'un des conseils que je partage quand on me pose la question par où commencer. Je partage souvent, commencer par une feuille blanche et commencer à écrire ce que vous souhaitez déjà tenter, essayer, ce qui vous plaît. Mmh.
C'est important d'avoir du temps, justement, aussi, peut-être.
Oui.
De prendre son temps.
Oui.
C'est ça, en fait. Il ne faut pas attendre d'être peut-être en crise et sur le point de perdre un boulot, d'être au chômage ou l'HEDA, pour commencer la réflexion.
Tout à fait. Et moi, je dirais que même ça se prépare.
Oui.
Il y a même des choses que j'aurais préféré préparer plus. Mais bon, on ne peut pas se préparer à tout.
Ouais.
Mais tout à fait, je préfère partager qu'il y a des choses assez simples qui permettent de se préparer.
Bien sûr.
Typiquement, moi, je dis souvent, n'hésitez pas à rencontrer les personnes. Parce qu'on passe notre journée à se dire, « Ah, je la vois, elle réussit, j'aimerais, elle a l'air bien. » Mais en fait, au lieu de dire ça, écrivez à la personne, proposez-lui un café et demandez-lui des informations. Et à ce moment-là, vous allez voir les choses qui vous plaisent ou pas, est-ce que ça vous correspond ou pas. Et puis, dans tous les cas, ça vous fera un carnet d'adresses.
Oui, absolument.
Et ça fait partie des choses, au-delà d'économiser de l'argent, ce qui est bien, mais qui ne suffit pas. J'appelle ça les avantages compétitifs ou les unfair advantages, dans le sens, ce qui vous permettra de réussir, même avec le peu de ressources. Donc, c'est le réseau, c'est l'argent et c'est votre marque personnelle.
C'est ça.
Ça se travaille. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer, pour pouvoir le travailler aujourd'hui avec les réseaux sociaux.
Absolument, c'est vrai, c'est vrai. Alors, justement, Bouteina, au départ, c'était une vie professionnelle un peu compliquée. Aujourd'hui, c'est une vie professionnelle épanouissante, mais en même temps, il y a tout le volet de l'entrepreneuriat qui, en réalité, enlève un peu de rêve et de magie parce qu'il y a ce facteur d'incertitude. Est-ce que c'est compliqué à assumer au quotidien?
Oui, il n'y a pas de mystère. C'est un métier difficile. Ça se mérite, dans le sens où c'est une responsabilité. L'entrepreneuriat, c'est aussi porter le risque. C'est être la personne ou les personnes pour ceux qui ont la possibilité d'avoir des associés, et c'est le cas pour moi, de se dire en fait que je suis responsable de la réussite et je suis responsable, par exemple, du salaire de mes employés. Je suis responsable même de mes contrats avec les clients. Et ça, c'est sûr, ça demande une forme, oui, de résilience, mais aussi une préparation mentale de pouvoir mettre les choses de côté, de ne pas, de ne pas ruminer. Ça, c'est très important parce qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, il y a le risque, mais il y a aussi l'échec. Il faut se préparer à toujours à avoir cette éventualité que vous allez perdre des contrats, que il y aura des salariés qui ne vont pas vous satisfaire et ça fait partie du jeu. Et qu'à ce moment-là, ce n'est pas une affaire personnelle, mais c'est quelque chose d'inhérent au système, qu'il faut arriver à s'améliorer sans pour autant s'en vouloir de manière continue. Et c'est le côté ruminant qui va aggraver ça. Donc il faut savoir se maintenir à cette bonne distance et bien s'entourer. Moi, j'ai la chance de m'être construite un réseau d'amis entrepreneurs qui sont, entre guillemets, authentiques dans le sens où vraiment on va pouvoir partager nos galères et ne pas se sentir seul. Parce qu'effectivement, dans l'entrepreneuriat, il y a une forme de solitude. Et ça, ça joue beaucoup à pouvoir garder la perspective et le souffle. Je dis souvent, c'est comme une montagne à escalader, mais que vous vous arrêtez à chaque fois sur le chemin. Et parfois, on a l'impression de commencer depuis le début. Et ce n'est pas le sujet. Et il faut arriver à se rappeler qu'on ne commence pas depuis le début, et que c'est juste que la montagne est haute et que de temps en temps, elle paraît encore plus haute parce qu'on va se rajouter des défis, parce que parfois, on va avoir des soucis de santé. Peu importe. Et c'est normal d'arriver à un stade où de temps en temps, on se dit « Ouh là là, j'ai encore beaucoup à escalader, qu'est-ce que je vais faire ?» De même paniquer et d'arriver à, voilà, d'arriver à bien s'entourer, en plus de bien se préparer mentalement, que ces phases-là font partie du jeu et en même temps, elles nous disent quelque chose. Parfois, elles nous alertent, par exemple, que c'est un mauvais contrat à faire, par exemple, que c'est un mauvais chemin à prendre, que c'est pas la bonne stratégie à adopter. Et ces signaux-là, ils nous disent quelque chose. Et parfois, oui, l'entrepreneuriat, c'est aussi de l'intuition.
Alors, en même temps, en fait, quand vous étiez dans ce premier job, c'était plutôt le confort, même s'il y avait beaucoup de travail, etc. Mais il n'y avait, oui, avait pas, en fait, cette peur de devoir gérer la vie des autres, d'avoir des contrats, de pouvoir assurer des salaires, etc. C'était plutôt l'inverse. Malgré tout, quand les valeurs ne sont pas alignées, on préfère cette responsabilité mentale au confort du salaire.
Je ne vais pas vous mentir, je pense que tout le monde n'est pas prêt pour ça parce que tout le monde n'a pas les mêmes valeurs.
Bien sûr, mais par rapport à vous en particulier.
Moi en particulier, c'est parce que la liberté est plus importante. Et en même temps, je me suis retrouvée dans des situations en fait personnelles entre guillemets où je savais que avoir à me justifier à un employeur aurait été difficile, compliqué et certainement m'aurait coûté ma place parce que
c'est surtout la maternité
maman,
à ce moment-là.
Non, pas que. Non. Je suis aidante. Il se trouve que mon conjoint a eu un épisode de maladie.
Okay.
Il se trouvait qu'il fallait que je sois plus présente
pour lui, bien sûr,
pour lui et aussi pour mon enfant, et que ce moment-là, c'est très marrant entre guillemets marrant parce qu'il se trouvait que j'étais en train de m'intéresser à la question de l'aidance, donc des personnes qui aident leurs conjoints, leurs parents, leurs enfants dans des situations de difficulté, de fragilité. Et donc, je savais ce qu'il fallait que je fasse, entre guillemets, pour pouvoir passer ce cap-là. Mais je savais aussi que c'était un moment difficile dans ma carrière et que l'entrepreneuriat a eu une forme de résilience qui m'a permis de passer le cap.
Mais en même temps, c'est pas compliqué.
Pas facile, hein.
Voilà. Non. Alors, justement, pourquoi je pose la question ? Parce qu'à ce moment-là, on est maman. Okay. On est aidante, mais on est aussi chef d'entreprise. Oui. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est maman aidante qu'on peut travailler moins, parce qu'on n'a pas de compte à rendre à un supérieur. On a au contraire des gens à nourrir, un business à faire tourner. C'est presque plus compliqué ou bien finalement, allez, on gratte sur les 24 heures de la journée. C'est plus seulement les...
J'ai travaillé le soir. Voilà, il y a... une question de liberté d'horaire de travail. Ça, voilà, c'est l'un des métiers où, quand on travaille dans les services, on peut se permettre cette capacité-là. J'ai gratté les nuits, j'ai gratté aussi, grâce aux nouvelles technologies, une façon de travailler, même quand j'étais pas au bureau, on va dire physiquement, j'avais la possibilité de répondre au téléphone, d'envoyer des messages par email. Enfin voilà, il y a une capacité aujourd'hui d'adaptabilité qui m'a permis de faire ça. Et en même temps, je savais que pendant certains horaires, j'allais pas répondre pendant 4 heures. Que je savais aussi que, par exemple, j'allais rater des événements de networking.
Ouais.
Et je me suis vraiment assise avec moi-même, mais aussi avec mes mentors, qui m'ont permis de gagner en clarté et de me dire que le plus important, c'est pas de s'agiter. Le plus important, c'est de gagner en focus et en impact. C'est-à-dire que et ça, j'ai pas appris en tant que salarié, parce que on travaille dans un mode présentiel où il faut faire ses heures, alors que dans l'entrepreneuriat, c'est pas une question de faire ses heures, c'est d'arriver à être les plus impactantes dans son travail par rapport à ses objectifs. C'était parfois le plus important, c'est d'arriver à rencontrer le client au bon moment et de closer ce deal. Par contre, effectivement, si j'ai ce moment-là, il faut que j'arrive à m'organiser pour que je sois là au bon moment. Et après, d'assumer cette préparation mentale, c'était aussi ça, de dire, bon, il y aura des fois où je ne vais pas pouvoir être partout. La priorité, c'est de pouvoir passer ce cap-là avec ma famille, et ça ira mieux après. Et effectivement, j'ai laissé des plumes, mais on va dire, l'alternative aurait été beaucoup plus importante. Et c'est là où ce travail-là, entre guillemets, de s'asseoir même avec son associé et de faire le point et de travailler sur ses objectifs et de gagner vraiment en cette clarté stratégique, c'est pas du tout accessoire. Parfois, quand on est aidant, le problème, c'est qu'on va aller s'agiter partout, on va vouloir tout faire, bien faire. Et en fait, il y avait des fois où j'assumais que voilà, chez moi, ce soit n'importe quoi, parce que j'étais en train d'écrire voilà, quelque chose d'important. Et je faisais des choix. Ce qui était vital était important.
Ouais.
Qui ne l'était pas, n'était pas important.
Exactement. Exactement, il faut justement... quand vous dites « j'y ai laissé des plumes », c'est par rapport à la santé, j'imagine aussi, parce que ça...
Oui, la santé, voilà, il y a forcément... et après, je ne suis pas la seule, il y a des études qui montrent que voilà, quand on arrive dans des situations comme ça, on va avoir des bobos de la vie physique. Voilà, j'ai laissé des plumes, mon dentiste me connaît maintenant, je passe chez lui assez souvent, mes autres médecins aussi, ça fait partie du jeu. Mais après, voilà, avec le recul, honnêtement, il y a certainement des choses que j'ai ratées, j'en suis consciente, mais j'ai pas spécialement de regrets. Et ça fait partie des moments où, quand on sait que c'est des moments de crise, de savoir est-ce que on a réussi à les passer avec suffisamment de d'alignement avec soi-même, parce que c'est tout ce qui restera.
Eh bien, Boutena Burkel, ça va mieux là pour finir justement.
ça va merci mieux pour cette thérapie. Non, ça va.
C'était thérapeutique cet échange, c'est vrai.
Ah ouais. Je mets des mots sur des choses que j'aurais pas forcément mis des mots il y a quelques mois.
Ouais.
Il n'y a pas de trémolo dans la voix, donc tout va bien.
Super. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première. Sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.